La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour, c'est Guillaume Cerruti, président directeur général de Sotheby's, qui vous accueille aujourd'hui, et non pas Didier Rickner, pour une raison très simple, c'est que l'invité de la semaine de l'art aujourd'hui est Didier Rickner. Cher Didier, nous avions parlé il y a un an exactement, lorsque vous m'aviez invité à la semaine de l'art, de cette idée d'inverser les rôles un jour et que vous soyez l'invité, de manière à ce que je puisse, au nom des nombreuses personnes que vous avez déjà soumises à la question, à mon tour vous soumettre à la question. Et donc nous voilà aujourd'hui. J'ajoute que nous aurions dû tenir cette émission dans les premiers jours de janvier, mais pour les événements tragiques que notre pays a connus, nous avions décidé d'un commun accord de reporter. Et donc, nous voici aujourd'hui pour cette émission particulière.
Je tiens à dire que c'était votre idée, Guillaume, de faire cela. Je n'aurais jamais pensé être le propre invité de l'émission, c'est un peu prétentieux, mais puisque vous l'avez proposé, je l'ai accepté bien volontiers. D'autant plus que je sais que vous ne me ménagerez pas.
Chacun connaît votre modestie et chacun est effectivement... comprendra que c'était bien mon idée et non pas la vôtre. Alors commençons, cher Didier, par rappeler quelques éléments vous concernant avant de venir à l'échange. Avant de créer la Tribune de l'Art, vous avez été diplômé de l'École du Louvre, diplômé de Sciences Po. Vous avez eu une première carrière de consultant en organisation. Vous avez été embauché par La Poste en 1997. Avant de tourner Kazakh et de vous consacrer à votre vraie passion, qui est le patrimoine, l'art la défense d'un certain nombre de principes qui ont été à l'origine de la Tribune de l'Art. Rappelons quelques grandes dates de la Tribune de l'Art, après sa fondation pratiquement dans votre arrière-cuisine en 2003.
La légende.
C'est la légende. On dit cela aussi souvent des groupes de rock qui ont commencé dans un garage. Vous, c'était dans une cuisine. En décembre 2006, vous faites connaître, vous inscrivez la Tribune de l'Art dans le paysage des organes de presse qui comptent à l'occasion de la pétition « Les musées ne sont pas à vendre », une pétition qui est signée par 3000 personnes, dont Françoise Cachin.
5000 personnes.
5000 personnes, la regrettée Françoise Cachin, Jean Clair, Roland Recht. Cela vous fait connaître. Il y a même des reprises internationales de cette pétition qui vraiment inscrivent la Tribune de l'Art sur la carte. En 2007-2008, vous devenez réellement professionnel, vous renforcez l'équipe. Je rappelle qu'aujourd'hui, outre vous-même, deux autres journalistes travaillent à la Tribune de l'Art, Bénédicte Bonnet-Saint-Georges et Julie Demarle. La Tribune de l'Art est aujourd'hui un organe connu, reconnu, redouté. On va essayer d'en parler tout à l'heure. En 2014, vous créez la Semaine de l'Art, que nous occupons aujourd'hui, que nous illustrons aujourd'hui. Vous mettez également en place une formule d'abonnement que vous venez de porter à 50 €. Vous allez sans doute nous parler aussi du bilan que vous faites aujourd'hui du mode de fonctionnement de la Tribune de l'Art dans cette version. Vous avez à peu près 1 million de visiteurs uniques par mois, 700 abonnés
100 000,
payants.
100 000 visiteurs.
100 000, pardon.
100 000 visiteurs.
100 000,
oui, 1 million, c'est un peu beaucoup.
J'ai exagéré.
Voilà,
j'ai exagéré.
Ça, 1 million, c'est plutôt le
1 million
Figaro,
par an. 1 million par an.
Oui,
700 abonnés payants et 1500 abonnés à la lettre hebdomadaire. C'est des chiffres que vous-même
plus de 700 abonnés payants, alors que ça vient de passer payant. C'est-à-dire que le modèle était jusqu'à présent gratuit, en grande partie, et maintenant, les articles de plus de 3 mois sont payants. C'est pour ça aussi que l'abonnement, qui avant était un peu un don ou une aide de la Tribune de l'Art, est passé à 50 €, ce qui est encore assez raisonnable, je crois.
D'accord. Alors commençons notre entretien ou notre discussion justement par évoquer le rôle et le positionnement de la Tribune de l'Art. Lorsque vous avez lancé la Tribune de l'Art il y a un peu plus de 10 ans, vous aviez annoncé un certain nombre de principes, vous vouliez illustrer l'histoire de l'art, parler et intervenir dans le domaine de la protection des objets et des monuments, jouer un rôle d'alerte, c'était un peu le premier de vos objectifs. Vous aviez annoncé que vous seriez également... un acteur d'investigation dans le domaine du patrimoine. Vous aviez l'ambition de rendre compte des acquisitions des musées. Et puis, vous aviez également l'ambition de participer au débat d'idées au sein de la communauté scientifique. C'était un peu les quatre axes qui définissaient l'intervention de la Tribune de l'Art. Alors, une dizaine d'années après, est-ce que vous pensez que vous avez rempli les missions dans ces différentes catégories ?
Alors, juste avant, petite précision sur ce que vous avez dit en introduction, je ne suis pas diplômé de Sciences Po, je suis ancien élève de Sciences Po, et je suis en revanche diplômé ingénieur agronome. Mais je pense que l'agronomie n'a rien perdu au fait que je ne travaille pas dans l'agronomie.
Je ne sais pas, il faut mesurer ça à l'aune de ce que le patrimoine a gagné, donc c'est peut-être. Toujours en comparant les choses, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, revenons maintenant au bilan de la Tribune de l'Art.
Alors, le bilan de la Tribune de l'Art, j'ai effectivement régulièrement repris et relu ce que j'avais écrit il y a plus de 13 ans, 14 ans maintenant quasiment, et je pense, maintenant ce n'était pas forcément à moi de le dire, vous pourrez, peut-être ne serez-vous pas d'accord, mais je pense avoir largement... réussi cela. C'est-à-dire que je voulais, quand j'ai créé la Tribune de l'Art, lire quelque chose que je ne lisais pas ailleurs. C'est peut-être très prétentieux de le dire cela, mais tant pis, après tout. Je voulais créer quelque chose qui n'existait pas. C'est-à-dire à la fois un organe qui soit effectivement, qui anime et qui traite de l'histoire de l'art, mais on traite de l'histoire de l'art, comme je suis moi-même, donc j'ai fait l'école du Louvre, effectivement, diplômé de l'école du Louvre, et puis j'étais historien d'art, même lorsque je travaillais à la Poste. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait fondamentalement, c'est quand même l'histoire de l'art. Donc j'ai publié quelques articles d'histoire de l'art de fond, et donc je suis historien de l'art. Je pense que faire du journalisme d'art en étant historien de l'art, je pense que c'est un plus. Donc je pense que sur ce plan-là, c'est plutôt réussi. Sur le plan des défenses du patrimoine, ça c'est très important, je souhaite faire en fait du journalisme à la fois d'investigation, c'est-à-dire je n'attends pas, et Bénédicte Bonnet-Saint-Georges pas plus, on n'attend pas les communiqués de presse. Alors ça arrive qu'on traite des communiqués de presse, et dans ce cas-là on approfondit, mais on sélectionne bien ce qu'on veut traiter, donc on ne traite pas de tout, et surtout on va chercher l'information, c'est très important. Donc c'est de l'investigation, on enquête également, et du journalisme engagé. Moi je ne conçois pas le journalisme autrement qu'engagé. On donne des arguments de chacun, et puis des arguments se valent. Non, les arguments ne se valent pas. En patrimoine, il y a des destructeurs, il y a des vandales, et il y a des gens qui essaient de le sauvegarder. Ça ne veut pas dire manichéisme, bien entendu, mais en revanche, j'ai des combats, et si la Tribune de l'Art est restée, et de toute façon restera gratuite pour tout ce qui est d'actualité, je signale que tous les combats menés par la Tribune de l'Art, tous les articles liés à cela sont toujours gratuits, restent gratuits en permanence, c'est parce qu'on a vraiment la prétention de faire changer les choses, et je pense qu'on y arrive, de temps en temps.
Comment pouvez-vous combiner cette activité presque de combat, de défense du patrimoine, comme vous l'avez indiqué, avec votre volonté d'être un acteur du débat d'idées? Je voudrais qu'on s'arrête un instant là-dessus. La Tribune de l'Art, est-ce que ce n'est pas plutôt le tribunal de l'art? Est-ce que vous n'êtes pas dans une position d'imprécateur, un peu solitaire, qui finalement décoche ses flèches, un tireur embusqué qui décoche ses flèches sur les conservateurs, sur les élus, sur les architectes, sur les promoteurs, sans jamais accepter le débat? Est-ce qu'il y a place pour le débat au sein de la Tribune de l'Art, et est-ce qu'il y a place pour la contradiction de Didier Rickner?
Alors absolument, la bonne preuve, c'est que vous êtes là pour, par exemple, m'apporter la contradiction, et j'en suis absolument ravi. Surtout, bien sûr qu'il y a place pour la contradiction. Le problème en France, c'est que, prenons un exemple concret, le Louvre à Abu Dhabi. Je parle de la période antérieure, au moment où il y a eu ce grand combat du Louvre à Abu Dhabi. Je n'ai jamais eu, face à face, dans aucune émission, quelqu'un du Louvre qui puisse débattre réellement, aucune réponse à mes critiques. Pour le Louvre-Lens, j'ai fait un article 10 raisons pour lesquelles le Louvre-Lens est un mauvais projet. Aucun, personne n'a jamais répondu à cela. Or, dès qu'on écrit la Tribune de l'Art, il n'y a pas besoin de faire de recommandés pour faire un droit de réponse. Je publie tout. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. C'est-à-dire que, malheureusement, le débat, c'est pas parce que de mon fait qu'il n'a pas lieu. C'est que le monde des musées du patrimoine est souvent un petit monde où, franchement, il ne faut pas faire de vagues. Tout va très bien, tout est extraordinaire. En plus, il y a en France, malgré tout, en dehors, chez les universitaires qui ont une liberté de parole, les fonctionnaires en France, en particulier les conservateurs, les gens qui s'occupent de musées, ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent. S'ils le disent, ils ont peur d'être placardisés, voire pire. Donc, ils ont un devoir de réserve qui finalement s'analyse plus comme on ne dit rien. Donc, on ne réagit pas. Donc, le débat pourrait avoir lieu, mais simplement, il n'a pas lieu, effectivement.
Didier Rickner, est-ce qu'il ne faut pas vous interroger pour savoir pourquoi ce débat n'a pas lieu, et éventuellement, est-ce que ce débat n'a pas lieu par votre faute?
Peut-être.
Est-ce que vous n'êtes pas
mais,
quelqu'un...
Alors expliquez-moi pourquoi.
Regardez par exemple, nous dialoguons, vous n'arrêtez pas de me couper. Est-ce que vous n'êtes pas dans une position où vous n'acceptez pas la contradiction, où vous ne changerez jamais d'avis, où vous voulez toujours avoir le dernier mot ? J'ai repéré un certain nombre d'exemples. Effectivement, il arrive sur la tribune de l'art que tel ou tel conservateur vienne porter la contradiction. Mais systématiquement, vous répondez à sa réponse, comme si vous vouliez en permanence avoir le dernier mot. Je pourrais prendre des exemples.
Exemple, oui, prenez un exemple, ça m'intéresse.
Écoutez,
c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai.
C'est très simple.
Oui, c'est vrai.
C'est très simple. Dans le débat sur, je crois, l'exposition organisée par Versailles à Arras,
oui.
N'est-ce pas ? Bon. Vous avez mis en évidence, pourquoi pas après tout, les dangers liés au transport et à la manutention de certaines pièces rares venues des collections de Versailles. C'est engagé un débat avec Béatrix Saul, avec la conservatrice, ou en tout cas la chargée de l'exposition. Mmh. Elle vous a répondu en vous disant que vous n'étiez peut-être pas la meilleure personne, que vous n'aviez peut-être pas tous les éléments pour juger de la manière dont les transports avaient été faits. Mais vous avez mis un point d'honneur à répondre à nouveau, sans lui laisser naturellement la possibilité de répondre.
Bien sûr que si.
Mais oui, mais les gens s'épuisent, dit Drigner.
Non, non.
Vous ne prenez pas...
C'est vous qui ne me laissez pas parler, là.
Je termine la phrase. Vous ne prenez pas toujours le temps d'accepter cette contradiction, d'écouter les autres. En tout cas, c'est ce qui est ressenti par beaucoup de vos interlocuteurs.
Eh bien, c'est dommage, parce que je pense que ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que lorsqu'il y a quelqu'un répond, un droit de réponse, si un dialogue s'engage... Il faut que chacun puisse répondre. Donc, quiconque m'envoie et réagit. Le problème, c'est que la plupart du temps, lorsqu'il y a eu des, quand je fais un article, j'ai peut-être tort, mais parce que j'enquête et je donne des arguments qui sont réels. Et souvent, bah, malheureusement, on me répond à côté de la plaque. Je pourrais reprendre ça. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne, la conservatrice, m'a dit que la journaliste avait extrapolé ce qu'elle avait dit. Donc déjà, j'ai répondu à des choses qui n'étaient pas tout à fait vraies, mais pas de ma faute, parce que le journaliste avait mal transcrit ses propos. Ce qu'il faut dire, par exemple, c'est que je ne suis pas le seul, d'ailleurs, dans ces combats. Pour ce que vous dites sur les transports des marbres, je signale l'opinion de au moins 4 ou 5 des plus grands spécialistes de la sculpture mondiale, c'est pas moi, c'est 4 ou 5 des plus grands spécialistes de la sculpture mondiale, dont l'ancien patron des sculptures du Louvre. Donc si vous voulez, c'est un petit peu argumenté, j'ai des arguments. Après, on peut me répondre, mais quand les arguments ne sont pas bons à mes réponses, je suis obligé de le signaler.
Alors, Didier Rigner, prenons les choses d'une autre manière. Citez-moi 2 ou 3 exemples où la contradiction vous a amené à changer d'avis.
Alors ça, c'est un petit peu difficile comme cela. C'est comme vous, si vous me demandez, si vous me demandez quels sont les derniers films que j'ai vus, j'aurais du mal sur les combats que je mène en général. C'est vrai, récemment, je n'ai pas beaucoup changé d'avis parce que je pense avoir raison sur ces combats-là. Mais
vous pensez avoir toujours raison.
Non. Je pense sur les combats que j'engage sur la tribune de l'art. Oui, je pense, mais il n'y a pas 50 thèmes.
D'accord.
Oui,
restons
sur ce combat, je pense avoir toujours raison.
Restons,
ce qui ne veut pas dire avoir toujours raison dans la vie. Hein. C'est
restons,
pas pareil.
Restons, on parle de la tribune de l'art. Restons sur cette question du débat. La tribune de l'art se voulait un forum également.
Ça ne s'est jamais voulu un forum exactement.
Un lieu de débat d'idées pour la communauté scientifique.
Oui, très bien. Oui.
Bon, très bien. Forum, un lieu de débat d'idées. Parfait, ce sont vos termes
tout à
l'origine
fait.
De la
tout à fait,
vous
ne
pouvez pas contredire, ce sont vos termes.
Je les maintiens.
Alors, regardons un petit peu, justement, comment, à l'image d'autres sites spécialisés, cette dimension de lieu d'échange a fonctionné.
Ouais.
J'ai fait le décompte, vous êtes toujours très précis, s'agissant de vos éditoriaux, par exemple, en moyenne, depuis que la tribune ou depuis que vos éditoriaux existent, il y a moins d'une réponse par éditorial, moins d'une participation extérieure, moins d'un commentaire.
Alors,
et très souvent, promenons-nous sur votre site, très souvent, lorsqu'on voit commentaire, entre parenthèses, on voit zéro.
Alors je vous réponds très précisément sur cette question, si vous me laissez répondre.
Et je termine ma question avant que vous répondiez. Est-ce que ce n'est pas le signe de l'épuisement de vos contradicteurs et finalement, le signe que la tribune de l'art est certes considérée, vous êtes considéré, mais un peu comme quelqu'un qui exprimerait une position extrême, qu'il ne faut pas chercher à contredire, parce que de toute manière, ça ne mène à rien. Voilà, vous êtes là, un imprécateur solitaire.
Alors, non, et pas du tout, et je vais vous dire pourquoi. Les commentaires inter...
Vous, d'abord, est-ce que vous êtes en contradiction avec ces données chiffrées ?
Non, pas du tout. D'accord. Il y a à peu près, depuis qu'on a créé la possibilité de commenter, il doit y avoir 300 interventions à peu près sur le site, 322, dont les miennes auxquelles j'ai répondu.
Donc 322 en une douzaine d'années, en fait. Hein.
Non, pas du tout. Là, vous vous trompez. Parce que la possibilité de commenter les articles, c'est depuis à peu près où on l'a mis en place il y a un peu moins d'un an. Pourquoi ? Parce que moi, je suis très opposé aux commentaires Internet. Les commentaires Internet, si vous allez sur les commentaires Internet du Figaro, de Libération, des grands journaux, c'est un tissu. Parce que pourquoi c'est un tissu de... Excusez-moi. Dans le meilleur des cas, c'est la moitié ou les trois quarts de ces commentaires sont bêtes. Et dans certains cas, c'est du racisme, c'est de la haine, c'est des appels à l'aide, etc. Pourquoi ? Parce que les commentaires Internet ne sont pas modérés ou très peu modérés. N'importe qui peut écrire n'importe quoi sous pseudo. Ce qui est absolument insupportable. J'ai toujours refusé cela à la Tribune de l'Art. C'est-à-dire que la Tribune de l'Art, on peut commenter, maintenant, peuvent commenter uniquement les gens qui sont abonnés payants. Or, les abonnés payants sont finalement, ils sont 720, ça augmente beaucoup, mais assez peu nombreux finalement, puisque c'est normal, au départ, tout était gratuit. Donc il n'y a que les abonnés, sous leur vrai nom. Voilà, donc déjà, ils engagent. Donc j'ai toujours eu, sur les 300 commentaires, en moins d'un an, j'ai toujours eu des gens qui ont eu des commentaires intéressants, sur lesquels on peut dire, mais simplement, c'est vrai que c'est pas encore rentré dans les mœurs. Donc ça va rentrer doucement dans les mœurs, mais le débat, le lieu de débat, n'a jamais été prévu pour être... Ça, c'est pour les lecteurs qui veulent s'exprimer. Les gens qui ne sont pas contents par rapport à ce que j'écris peuvent me répondre, je publie tout. Vous savez que, prenons un exemple, sur la Samaritaine, les associations de défense du patrimoine, dont je suis assez proche, vous le savez, tout le monde le sait, ont été attaquées, mais d'une manière incroyable, dans la presse.
On y reviendra tout à l'heure,
mais quand même pour dire, ils ont envoyé des droits de réponse, qui est obligatoire par la loi, et selon toutes les formules recommandées, etc. Il y a plusieurs journaux qui n'ont pas répondu, qui n'ont pas accordé ce droit de réponse. Alors qu'il était fait dans les termes, ils sont maintenant attaqués en justice, et c'est normal, par ces associations. Moi, il suffit de m'envoyer un mail et je publie.
D'accord. Didier Rigner, on s'écarte un tout petit peu là, de la Tribune de l'Art. Revenons à la Tribune de l'Art. Et donc, je note que jusqu'à présent, vous n'avez pas trouvé de sujet sur lequel, éventuellement, vous n'auriez pas eu raison.
Sur la Tribune de l'Art, je n'en ai pas comme bien à l'esprit.
Vous avez toujours eu raison dans vos prises de position. Enfin, c'est ce que vous pensez. Je pense qu'il est intéressant que vos auditeurs l'entendent. Oui. Et deuxièmement, vous trouvez finalement que la participation et le nombre de commentaires, fussent-ils négatifs ou positifs à vos éditoriaux et aux prises de position et aux articles de la Tribune, est satisfaisant à l'heure actuelle. On s'arrête là et je voudrais en venir à autre chose. Est-ce que vous pensez que le ton que vous employez est toujours adapté ? Et notamment le ton que vous employez vis-à-vis de personnes.
Alors, j'essaye de ne jamais faire d'attaque personnelle. Il est vrai que je peux parfois être un peu excessif. C'est exact. Donc, j'essaye de me modérer parce que c'est vrai que je peux avoir de temps en temps un ton excessif. Maintenant, prenez des exemples éventuellement sur les personnes, mais j'essaie de ne pas attaquer les personnes elles-mêmes.
Lorsqu'un ministre, ouais, quel que soit son bilan, s'en va et que vous écrivez « bon débarras », est-ce que vous pensez que cela est adapté à un organe comme la Tribune de l'Art ?
Je le maintiens.
Vous demandez publiquement...
Je le maintiens, tout à fait. Effectivement, ça a paru excessif à quelques personnes, et vous-même, vous en avez fait part, et deux ou trois autres personnes me l'ont dit. Et je reconnais que c'est violent. Simplement, il est vrai qu'à partir d'un certain moment, quand un ministre est aussi inefficace, et j'allais dire quelque part, quand on est inefficace à ce point-là, nuisible, eh bien, c'est vraiment ce qui m'est venu. Bon débarras, elle part, ce qui ne veut pas dire que celle qui l'a remplacée sera beaucoup mieux, mais bon débarras. Et je l'ai fait, c'est peut-être effectivement... Non, alors là, je vous reconnais, c'est peut-être un peu excessif. Je suis d'accord sur ce plan-là. Voilà un exemple. Après, je me suis dit, j'ai peut-être été un peu excessif, j'aurais pu le faire. Mais en même temps... Je pense qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Et vous reconnaîtrez que tout de même que je m'attaque en général, pas forcément à des gens qui ne peuvent pas se défendre.
Oui, de ce point de vue, est-ce que vous pouvez me citer un ministre qui aurait eu grâce à vos yeux depuis que la Tribune de l'Art existe, ministre de la Culture ?
Depuis que la Tribune
de
l'Art
existe. Parce que là aussi, est-ce que cette espèce de permanence de la critique, cette permanence du bilan négatif que vous dressez... Voilà. Laissez-moi terminer. Est-ce que... ce n'est pas aussi le signe que peut-être votre hausse, comme on dit en termes de balistique, est mal réglée et que finalement vous ne mesurez pas bien la contrainte du politique. C'est un métier complexe aujourd'hui. Est-ce que vous ne participez pas d'une certaine démagogie qui consiste à dire que les élus, que les hommes politiques sont des incapables? Est-ce que vous ne nourrissez pas finalement un sentiment qu'il faut combattre, je pense? Et je voudrais de ce point de vue aussi vous dire que j'ai été choqué à la lecture de la Tribune de l'Art parfois du fait que vous appeliez publiquement au départ de tel ou tel directeur. Et ça a été noté. Il y a eu un directeur du patrimoine dont vous avez dit,
oui,
à l'occasion d'un changement,
oui.
Qu'il faudrait qu'il parte, dans des termes peu amènes. J'ai trouvé ça très excessif. Alors, est-ce qu'on a le droit de finalement confondre un peu comme cela l'agressivité vis-à-vis d'une personne avec la prise de position de fond sur une politique?
Alors,
ça me choque un petit peu. Et est-ce que ça n'explique pas l'isolement dans lequel vous êtes un peu parfois, ou en tout cas le fait que vous ne laissez jamais indifférent, mais surtout, ce qu'on entend souvent, c'est que finalement, il est impossible de discuter avec vous.
Alors, ce qu'il faut, il y a trois points que je voudrais signaler, je vais le développer un petit peu longuement, vous m'en excuserez. Le premier point, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, c'est vrai qu'on voit toujours le négatif, mais si vous faites le décompte des articles positifs, et même parfois, même souvent, des positions positives sur des actions prises par les ministères, ça m'arrive assez souvent, ou par des fonctionnaires, il y a beaucoup de choses positives sur la Tribune de l'Art, mais c'est vrai qu'on retient que ce qui est négatif. C'est la nature humaine, je dirais.
Donnez-moi un exemple positif dans les jours qui viennent de s'écouler.
Alors là, je vais regarder les derniers articles nouveautés. Je suis désolé, parce que j'écris à peu près 25 à 35 articles par mois, donc je ne me rappelle pas
forcément.
Mais
vous devriez avoir ça à l'esprit quand même, s'il y en a régulièrement. Quelles sont les actions positives des deux derniers ministres, par exemple?
Christine Albanel, Christine Albanel, par exemple, je l'ai écrit, ça me vient comme ça, a renforcé les peines contre les voleurs d'œuvres d'art. Non seulement je l'ai écrit à l'époque, c'était quelque chose de très bien, mais quand j'ai reçu à cette même antenne le chef de l'ECBC qui a dit à un moment donné qu'il y avait moins de vols et que certainement, j'ai re-signalé que c'était Christine Albanel qui avait fait ça. Donc ça, c'est quelque chose de très positif.
Très bien.
Quand Renaud de Denuvoir est arrivé, la première action qu'il a faite, et pourtant Dieu sait si je n'aime pas beaucoup l'action de Renaud de Denuvoir, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a sauvé une gare de Nice de la destruction. Et je l'ai écrit tout de suite. C'est-à-dire que dès que je vois que Aurélie Filippetti, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire récemment, elle a certainement fait des choses bien. À chaque fois que je vois, j'essaye au contraire, parce que j'aime bien dire des choses bien. Contrairement à ce que vous pouvez penser, je n'aime pas dire du mal, j'aimerais ne dire que du bien. Ça, c'est la première chose. Donc voilà, je vous ai donné deux exemples. Renaud de Vabre.
Et sur le ton employé maintenant. Alors, sur le ton employé, pour votre défense.
Je me sens pas attaqué parce que j'assume complètement.
Quand vous dites bon débarras ou quand vous appelez.
Non, bon débarras. Je reconnais que le terme bon débarras est un peu excessif. Je le reconnais volontiers. Mais bon, ça fait partie de la chose. Je le regrette pas, mais je reconnais qu'il est un petit peu excessif. Je le regretterai peut-être pas comme ça. Michel Clément, à mon sens, a une action extrêmement négative. Je mesure mes termes parce que je ne souhaite pas être attaqué en diffamation. Vous remarquerez, en 13 ans, je n'ai pas été beaucoup attaqué en diffamation. J'ai actuellement, je le révèle là, une attaque en diffamation d'un maire du sud de la France. Je ne veux pas parler de cette affaire parce qu'elle est tellement ridicule. C'est-à-dire qu'il m'attaque sur deux imputations qui, même si elles étaient fausses, ne seraient pas diffamatoires. Donc, j'en parlerai en son temps parce que, vous voyez, ça ne me perturbe pas spécialement et j'en parlerai en son temps parce que ça serait très intéressant de voir le fonctionnement, comment fonctionne un procès en diffamation, etc. Mais peu importe. Un en 13 ans. Donc, si vous voulez, je suis assez tranquille avec ça. Et la limite, c'est la gloire du journaliste. Tous les journalistes ont un jour ou l'autre été attaqués en diffamation. Je disais donc, excusez-moi, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, c'est que, oui, le ton, Michel Clément, à mon sens, était, donc je suis mesuré là parce que, était extrêmement néfaste, extrêmement négatif, et j'ai énormément de choses qui se passaient qui étaient vraiment, pour moi, des décisions scandaleuses. À un moment donné, oui, je dis, la personne qui fait cela, elle nuit au patrimoine. Et donc, je pense qu'effectivement, il est normal qu'elle parte. Je pense quand même que quand on a une action publique, et vous avez une action publique, je vous sens un peu chez vous, quelque part, parce que vous étiez directeur de cabinet de Jean-Jacques Ayagon, évidemment, on se sent.
Et c'est Jean-Jacques Ayagon qui avait nommé Michel Clément directeur du patrimoine.
Oui, tout à fait, voilà.
Et j'ai de l'estime pour Michel Clément, je trouve injuste. Il est resté très longtemps directeur du patrimoine, et je trouve que résumer un parcours à quelques décisions que vous avez pu trouver négatives.
Pas quelques décisions, pour moi c'était un ensemble.
Un peu hâtif.
Pour moi c'était vraiment un ensemble. Et je pense que quand on est un personnage public et qu'on a une fonction publique, on doit accepter d'être critiqué, même d'être critiqué durement. J'accepte tout à fait d'être critiqué durement, je parle, donc c'est normal si vous voulez. Donc la critique est normale. Je pense qu'on est quand même en France, dans un pays où finalement tout irait bien, tout va bien, et on ne doit rien dire plus haut que l'autre. Ça me gêne.
Ma question, on finira là-dessus, et sur cette première partie de l'émission.
L'isolement.
Oui,
L'isolement, je ne me sens absolument pas isolé, parce que le problème en France, justement, c'est que la plupart des conservateurs que je connais, et même que je ne connais pas, qui m'écrivent, beaucoup de gens sont absolument d'accord avec moi. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas le dire, parce que s'ils le disent, ils vont se faire ostraciser. Donc, je ne me sens absolument pas isolé. Je pense, au contraire, parler pour beaucoup. On pourrait parler aussi des hommes politiques. Je n'attaque pas tous les hommes politiques. Des hommes politiques, très bien. Vincent Eblé, très bien. François de Mazières, qui est venu ici, qui a eu le courage de venir ici, avec lequel je n'ai pas été tendre. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord du tout avec lui, mais il a eu le courage de venir ici, il a eu le courage de parler, de répondre. C'est formidable. Moi, j'aimerais beaucoup plus qu'il y ait des gens comme ceci. Il y a des sénateurs, Jacques Legendre, qui s'intéresse beaucoup au patrimoine. Il y avait un communiste, son nom m'échappe, un sénateur communiste, quelqu'un de vraiment très très bien, qui est encore actif et qui défend le patrimoine. Il y a beaucoup de gens. Michel Guy a eu une action formidable. Jean-Jacques Ayagon. Donc vous avez été le directeur cabinet, j'étais assez critique de son action. N'empêche qu'il y a eu des choses bien qu'il a faites également, et c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien, on se parle. On n'est pas d'accord sur tout, mais au moins c'est quelqu'un qui accepte la critique et qui répond et on discute. Donc si vous voulez, le problème c'est qu'il n'y a aucun dialogue. Savez-vous que j'ai demandé, je termine là-dessus, j'ai demandé des interviews des trois derniers ministres qui ne m'ont jamais accordé. Ils auraient eu l'occasion d'avoir une interview, de m'expliquer leur position, ils n'ont jamais accordé.
Je pense que l'homme politique communiste auquel vous faites allusion était peut-être M. Dufour.
Non, c'est pas lui
qui a été secrétaire d'État. Voilà. Non, qui a eu une action méritoire. Ça n'est pas lui, c'est affreux.
J'ai perdu la mémoire de son nom.
Et deuxièmement, je pense que, mais on peut ne pas être d'accord, je pense que pour partie, le ton excessif que vous employez vis-à-vis des personnes peut expliquer que les politiques ne viennent pas volontiers au débat avec vous. Et je pense, si on doit faire un bilan de la Tribune de l'Art, je pense que c'est une des limites. Des échecs, mais c'est une des limites de la Tribune de l'Art, pas réussi à porter le débat à ce niveau-là.
C'est votre droit de le penser. Mais ceci dit, c'est vrai que les hommes politiques, ils aiment bien être encensés, ils aiment bien les interviews complaisants. Je refuse ça.
Alors, mettons un point final à cette première partie et prenons une respiration avec quelques brèves que nous allons pouvoir commenter.
D'accord.
Première brève, un nouveau directeur ou un nouveau président à l'Institut National du Patrimoine, Philippe Barba, qui remplace Éric Grosse. Et je voudrais ici saluer le travail accompli par Éric Grosse sur le chemin de la modernisation de l'Institut National du Patrimoine. Il y a encore beaucoup à faire pour former les futurs conservateurs. Éric Grosse a, je crois, accompli un beau premier travail. Est-ce que vous avez un commentaire ?
Non, je pense que l'Institut National du Patrimoine est très importante. Je ne connais pas extrêmement bien, c'est un des projets que j'ai, parce que je fais aussi des choses qui ne sont pas forcément polémiques, c'est d'étudier de près la formation des conservateurs. Il y a une chose que je regrette, et ça vous touchera certainement, c'est que, alors je sais que vous intervenez ponctuellement une ou deux fois par promotion pour me présenter les ventes aux enchères, je crains que la formation des conservateurs ne soit pas assez forte sur le marché de l'art. Parce que le marché de l'art est très important. Les acheter des œuvres, savoir aller chez les marchands, chez les commissaires-priseurs, c'est quelque chose qui, malheureusement, je pense, n'est pas assez développé chez certains conservateurs et ça devrait être plus développé à l'INP. C'est un exemple. Voilà. Mais évidemment, l'INP est très important, d'autant plus et là, je crois que vous êtes d'accord avec moi, dans un pays où on a de plus en plus tendance à ne pas mettre de conservateurs à la tête des musées. Parce qu'on ne les forme pas peut-être assez bien à la gestion. Il faut les former aussi à la gestion. C'est plus facile, je crois que vous êtes d'accord aussi avec moi, c'est plus facile de former un scientifique à la gestion d'un musée qu'un gestionnaire au scientifique.
On va revenir sur ces sujets. Deuxième élément d'actualité que je signale à vos auditeurs, la galerie Albert Loeb, rue des Beaux-Arts, ferme ses portes. Et Albert Loeb, qui l'a dirigé jusqu'à présent, a annoncé qu'il donnait l'ensemble de ses archives à l'Institut National d'Histoire de l'Art. La galerie est reprise par une autre galerie, une galerie d'art contemporain. Est-ce que vous avez un jugement sur le travail accompli par l'Institut National d'Histoire de l'Art ?
Oui, j'ai un jugement qui est mitigé. C'est-à-dire que c'est indispensable, l'Institut National d'Histoire de l'Art. C'est une institution vraiment très importante qui a fait des travaux vraiment fondamentaux, comme par exemple les inventaires des tableaux italiens dans les églises ou en France, tout simplement, je crains qu'elle ne soit un peu trop. Qu'elle ne soit pas assez ouverte. Je crains que ça soit peut-être trop parisien. Je crains qu'elle ne soit pas assez visible sur la scène même française et internationale. Je pense qu'il y a des améliorations à apporter à l'INHA. Là encore, c'est un article intéressant d'investigation que je pourrais faire. Ceci dit, l'INHA, il faut le soutenir parce que c'est essentiel. On attend avec impatience, évidemment, la réouverture de la bibliothèque, qui est un outil qui manque un peu à tout le monde.
Très bien. Deuxième partie de notre émission, parlons un peu des musées.
Oui.
Avant de venir peut-être tout à l'heure aux monuments et aux sujets architecturaux. Un rapport parlementaire a été publié, récemment a été rendu public, sur la gestion des réserves et les dépôts des musées. Vous avez pris position, vous avez fait un certain nombre de commentaires.
Vous remarquerez que j'ai dit que certaines choses étaient bien.
Oui, absolument.
Donc je ne suis pas toujours négatif.
Absolument, mais on n'est pas dans le domaine de l'action concrète politique, on est dans le domaine du rapport de proposition. Oui. Effectivement, vous retrouvez avec ce rapport sur plusieurs points. Un petit point qui est un de vos chevaux de bataille sur lequel vous revenez souvent et sur lequel j'aimerais qu'on ait un petit échange, parce que je me demande si vous n'êtes pas là aussi un peu à côté de la cible. L'utilisation libre des photos d'œuvres, oui, entrées dans le domaine public,
tout à fait, ça, c'est un combat.
Prises par les musées ou la réunion des musées nationaux.
Oui.
Donc vous avez effectivement totalement pris ce débat et vous l'avez. Alors pourquoi cet attachement à la liberté ou à la gratuité des prises de vue pour des œuvres entrées dans le domaine public? Vous avez l'air d'ériger l'utilisation gratuite du domaine public en principe, mais ce n'est pas un principe absolu.
Parce que c'est dans la loi, tout simplement. C'est-à-dire que la loi protège les œuvres de l'esprit, les œuvres originales. C'est comme ça. Une œuvre tombe dans le domaine, elle s'élève dans le domaine public, parce que certains disent que tomber, c'est pas très. S'élève dans le domaine public, arrive dans le domaine public au bout de 70 ans après la mort de son auteur. Les œuvres, les illustrations, alors c'est simple quand c'est les tableaux, hein, un tableau c'est une reproduction. Quand on fait une reproduction d'un tableau, on essaie de le faire aussi proche de l'original. Ce n'est pas une œuvre de l'esprit. Donc l'œuvre, la photographie n'est pas protégée. Alors évidemment, il est normal de payer le photographe, mais ça c'est le rôle aussi, je pense, des institutions publiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une manière extraordinaire, de plus en plus de musées américains, hein, les États-Unis, c'est affreux parce que c'est libéraliste, en tout cas, etc. Mais n'empêche que la plupart des musées américains donnent gratuitement les photos et souvent haute définition à tout le monde. Et que c'est en France qu'on fait payer les photos. Le RMN est quand même quelque chose. Ils sont assez souples, les RMN.
Ce sont pas
ce que j'ai reconnu. Écrit. Mais il y a des institutions qui sont moins souples et pour lesquelles qui vendent très cher pour les éditeurs. Moi, je suis exempté de droits puisque c'est de l'actualité. Donc, je ne paye pas les photos et puis on fait beaucoup moi-même. Mais je pense que, surtout à l'heure du numérique, les photographies d'œuvres tombées dans le domaine public doivent largement circuler parce que c'est simplement la loi. C'est normal que ça le fasse, et il est hors de question. Enfin, moi, je pense que c'est du copy fraude de prendre des copyrights, justement, sur. Et c'est ce que disent les sénateurs, enfin les parlementaires, donc qui ont bien fait leur boulot sur ça. C'est eux qui écrivent le terme copy fraude. Copy fraude.
Oui. Est-ce que vous ne pensez pas, comme c'est le cas, qu'une tarification très faible, venant finalement enrichir les ressources d'un établissement public, qui par ailleurs a des missions de préservation ou de monstration des œuvres des collections publiques, est une chose qui peut être défendue?
Ça peut être défendu pour les usages commerciaux, ponctuellement, très faibles. On peut toujours discuter, honnêtement, vous semblez penser que je suis toujours...
Non, je vous pose la question parce que je suis étonné sur un sujet aussi, j'allais dire,
simplement,
parce qu'on ne peut pas dire que l'intervention de la RMN dans ce domaine, ou de l'agence photographique de la RMN, soit quelque chose qui relève du scandale absolu.
C'est pas du tout la RMN qu'on vise le plus, mais ceci dit, quand vous devez payer pour un livre, je sais pas, quelques dizaines d'euros pour une photographie, beaucoup de photographies, c'est cher. Et si la photographie, on la trouve par ailleurs, on a le droit de la prendre, de la mettre et de la publier. Après, la difficulté, effectivement, c'est si vous n'avez pas la photo en suffisamment bonne définition, le musée est toujours en droit de vous envoyer le fichier contre rémunération. Mais si vous trouvez la photo ailleurs, vous pouvez l'utiliser. Et c'est ça que je défends surtout. Hein. C'est qu'on a une photo, on peut l'utiliser comme on veut. C'est la loi. C'est la loi et je pense qu'il faut qu'elle soit respectée. Je suis complètement d'accord avec ça.
Quels sont les éléments dans ce rapport, mis à part ce point ponctuel, quels sont les éléments qui vous paraissent intéressants et qui méritent d'être creusés?
Rien d'élément, je redoute de vous en parler parce qu'on avait eu ce débat lorsque vous étiez venu et je l'ai eu lors de la dernière réunion, c'est sur l'inaliénabilité. ils disent on peut se poser la question de l'inaliénabilité, mais ils referment tout de suite la porte. Ils vous citent d'ailleurs, mais ils referment tout de suite la porte. Bon, tout le monde sait que nous ne sommes pas d'accord, enfin tout le monde sait. Tous ceux qui vous écoutent et qui m'écoutent savent qu'on n'est pas d'accord sur ce point. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que je vous avais invité. Vous dites que je. Ce qui m'intéresse, que la chose qui m'a un petit peu effectivement titillé, c'est que vous dites que je ne donne pas la parole. J'essaie de donner la parole. J'ai organisé au Festival d'Histoire de l'Art il y a 2 ans un débat que j'ai voulu sur l'inaliénabilité. Qu'est-ce que j'ai invité? Ben, je vous ai invité pour que vous puissiez défendre votre point de vue. Donc, vous voyez, on est. J'adore la polémique. J'adore la polémique. Pour polémiquer, il faut être deux.
Didier,
et donc, je ne demande que ça.
Ce n'était pas dans le cadre de la Tribune de l'Art, c'était au Festival.
Non, mais j'étais invité parce que je fais la Tribune de l'Art.
Certes, mais ce n'était pas dans le cadre de la Tribune de l'Art. Donc, restons dans le cadre de la Tribune de l'Art.
Oui, alors, le rapport parlementaire.
Qui mérite, selon vous, d'être creusé alors, ou noté dans ce rapport?
La question des réserves, par exemple, est exacte. C'est-à-dire qu'il y a, le problème, c'est que ce rapport disait beaucoup de bonnes choses, mais il ne remontait pas vraiment à la source des problèmes. Par exemple, ce rapport disait le recollement n'est pas très bien fait, etc. Il va falloir punir. Alors, il disait une chose qui m'a beaucoup choqué. On n'aura plus d'argent pour acheter des œuvres aux musées qui n'ont pas fini le recollement. Sans se poser la question, mais qui donne l'argent pour les musées qui sont déjà... sevrés d'argent, qui n'ont pas beaucoup d'argent, et de moins en moins, je le vois bien, ce sont quand même les élus. C'est les élus qui ont l'accordon de la bourse. Il y a des endroits... Il faut quand même dire, il y a des villes comme Roubaix. Roubaix est une des villes les plus pauvres de France, on est bien d'accord. Roubaix entretient un musée exceptionnel. Roubaix donne beaucoup d'argent à son musée. Donc les gens qui veulent le faire, les gens qui veulent donner de l'argent à la culture, peuvent le faire. Donc dire qu'on n'a pas d'argent, c'est souvent pas vrai. Donc les villes qui ne donnent pas d'argent à leur musée, qui ne leur permet pas de faire leur récollement, il faut peut-être poser la question, plutôt que dire que les conservateurs sont des grands méchants, c'est pas forcément eux, c'est peut-être leurs élus qui n'ont pas. Donc j'ai trouvé que dire qu'il fallait que le récollement soit fait, très bien, dire que c'est les conservateurs, on a un peu l'impression que c'est les conservateurs qui étaient responsables de ça, c'était un petit peu choquant. C'était les hommes politiques, et eux-mêmes sont des hommes politiques, ils ont peut-être du mal à se remettre en cause.
J'aimerais effectivement, à cet effet, aborder avec vous la question des propositions que vous portez parfois et qui relèvent de ce que j'appelle un peu le « wishful thinking », hein, comme on dit en bon français, c'est-à-dire les propositions un peu irréalisables, mais où vous vous faites plaisir, consiste à dire qu'il faut augmenter les budgets alors qu'on sait bien qu'on est en phase de très grandes difficultés budgétaires dans ce pays. Ou par exemple, lorsque vous écrivez, en listant les sujets ou les propositions que ce rapport aurait pu aborder et qu'il n'aborde pas, la proposition suivante, proposition donc de votre CRU, répertorier les fonds des musées sortant du champ couvert par ce musée et qui n'ont donc aucune chance d'être un jour exposés par celui-ci et les proposer en dépôt à des musées s'engageant à les exposer, à les conserver. Oui. Un transfert de propriété pourrait être effectué. Franchement, très bien. Mais est-ce que vous pensez que les musées ne réfléchissent pas à ces questions? Et est-ce que vous pensez qu'il y a les moyens dans les musées qui, souvent aujourd'hui, souffrent de pénurie budgétaire, de mettre en place un meilleur traitement pour certaines œuvres que d'autres musées qui sont exactement dans la même situation? Alors, est-ce qu'on n'est pas c'est très bien comme proposition.
Je vais vous répondre. Là, oui, parce que là, on est quand même dans le concret. Une proposition concrète, à mon avis, tout à fait faisable. Sur les budgets... Je ne dis pas que la situation n'est pas compliquée actuellement, je ne dis pas ça. Je dis simplement que si vous regardez ce que la culture, là je parle au niveau national, le budget des cultures, dire qu'on va diminuer le budget de la culture, d'ailleurs on le diminue moins, mais dire qu'on va le diminuer, c'est comme si une personne physique est en faillite complète, n'a plus d'argent, et va se dire je vais prendre de café le matin parce que ça va... Non, le café c'est rien, c'est peanuts. La culture, le poids de la culture budgétaire, c'est peanuts, vous le savez comme moi. Donc les vraies économies ne sont pas l'affaire là. Et en plus, quand on regarde les montants, ils sont énormes. Ils sont énormes. Après, c'est un choix. On décide, je prends souvent l'exemple de la mairie de Paris, qui est comme vous le savez, mais on n'a pas d'argent pour restaurer les églises. Or, le budget participatif que fait voter Madame Hidalgo aux Français, l'argent accordé à ça qui, de sa part, est facultatif, puisqu'on fait des projets et puis on va financer ces projets. Ils ne sont pas obligatoires, cet argent-là, il serait mis pour... Rien que cet argent-là, hein, il serait mis pour restaurer les églises de Paris, on pourrait faire un plan église qui restaurerait toutes les églises. Donc c'est vraiment des choix. Donc les budgets, il y a des villes qui donnent de l'argent. Je prends l'exemple du Roubaix, ils donnent de l'argent au musée, donc c'est pas une fatalité. Deuxièmement, sur les échanges. Oui, je pense qu'il y a des villes et il y a des musées qui se débrouillent mieux parce qu'ils ont... Déjà parce qu'ils ont peut-être des maires plus clairvoyants, et puis parce qu'ils vont chercher du mécénat à droite à gauche, ils se bougent, il y a des conservateurs, il y a des très bons conservateurs qui se bougent, et qui arrivent à faire des choses. Et ces musées seraient ravis, parfois, et ça j'en suis certain, ils ont des moyens que n'ont pas forcément d'autres musées, et surtout quand je pense les collections hors collection, c'est par exemple le musée des Coins, et qui fait ça d'ailleurs déjà, hein, qui le fait, c'est un exemple que je prends parce que c'est un musée qui le fait déjà. Il a un musée des Coins, c'est la Renaissance, il a des collections 17e, 18e, 19e, des collections qui sortent de son champ. Donc, il est prêt à les déposer dans certains musées. Et je pense que cet échange, simplement, c'est simplement de savoir qui a quoi. Et ça n'est pas forcément bien fait. Et je suis certain qu'il y a des musées qui seraient ravis de prendre certaines œuvres que le musée des Coins n'exposera jamais, pas pour des raisons de moyens, pour des raisons d'objectifs de ce musée. Un deuxième exemple que j'ai pris, ce sont les alors là, j'ai appris, bonne nouvelle, c'est Philippe Bélaval qui l'a dit lui-même, que les plâtres du Panthéon qui sont conservés, mal conservés depuis des dizaines d'années, j'en ai parlé sur la tribune là, etc. Et je ne suis pas complètement certain que ça ne soit pas une des raisons qui ont fait que finalement on va peut-être les exposer et les restaurer. Donc voilà, je pense que ça, ce sont des propositions au contraire tout à fait faisables. Si on ne peut pas faire ça, alors on ferme les musées, c'est plus la peine.
Non, c'est la réponse un peu facile lorsqu'on parle de la possibilité d'aliéner les œuvres d'art, de dire on devrait commencer par mieux exposer les œuvres gardées dans les réserves qui pourraient faire le bonheur de certains musées. En réalité, j'ai travaillé dans un musée pendant quelques années, comme vous savez,
Beaubourg,
ça ne se passe pas exactement dans ces termes. La position me paraît un peu théorique et je voudrais en venir à ce sujet, peut-être pour avancer. À la position que vous avez plus généralement dans le domaine de la décentralisation culturelle appliquée au musée. Vous êtes souvent par vos prises de position taxé de parisianisme. Et je prends par exemple les exemples du Louvre à Lens, encore plus frappant, le Centre Pompidou à Metz. Vous avez pris position en disant que ce n'était pas le bon choix, qu'il fallait éviter de transférer les œuvres dans un autre lieu. Est-ce que tout cela, et je vais vous citer par exemple, n'est pas un peu excessif? Sur le Centre Pompidou Metz, le 13 mai 2010, vous écriviez « Le choix d'une ville de province pour montrer les collections d'un musée national, créer dès l'origine à Paris, est une mauvaise solution. Prétexter la décentralisation est un non-sens, etc. etc.
Oui. Alors,
les collections nationales doivent rester accessibles au plus grand nombre. » Comment peut-on écrire « Les collections nationales doivent rester accessibles au plus grand nombre », en déduire que donc le plus grand nombre étant ou venant à Paris, les collections nationales doivent rester à
Alors,
Paris. Est-ce que ce n'est pas quand même vraiment
Alors vous êtes, position, vous allez être heureux,
une position
Vous allez être heureux, il faut que je relise, attendez. Vous allez
une
heureux,
position attendez, vraiment d'un parisianisme.
Alors, sur le parisianisme, je peux vous répondre très facilement. Non, mais je vais vous
position,
répondre.
Une position quand même... qui est la négation même.
Je
prends le Centre Pompidou-Metz, il y a beaucoup à dire sur le Centre Pompidou-Metz, mais prenons cet exemple. Les 300 000 visiteurs de ce musée, les premières années, ou en ce moment, je crois que la première année c'était beaucoup plus que cela, est-ce que cela justifie un commentaire aussi, j'allais dire, méprisant que celui que vous avez pu formuler à l'égard de projets en province? J'aimerais bien vous entendre là-dessus.
Mais, je vous réponds, mais laissez-moi le temps de développer mon raisonnement, parce que je n'ai pas relu cet article, là, je suis en train de geler sous les yeux, là, je commence tout
les
même...
Les collections nationales doivent rester accessibles au plus grand nombre, donc à Paris.
Là, je pense, laissez-moi répondre. Je commence cet article en disant, bien qu'opposé aux délocalisations de musées pour de nombreuses raisons que nous avons souvent eu l'occasion de rappeler, le cas du Centre Pompidou à Metz nous semble différent des autres opérations en cours. En effet, les collections du Musée national d'art moderne sont si importantes que celles d'une faible partie est montrée dans le bâtiment parisien. La création d'une antenne, telle antenne devrait ainsi permettre d'exposer beaucoup d'œuvres actuellement conservées en réserve. Donc c'est exactement... Alors je ne sais pas, je regarderai après, je relirai cet article publié en mer, madame. Parce que tel que vous le dites, je suis contre ça. Donc c'est une erreur si j'écris ça de cette manière-là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je ne pense pas que je l'écris comme ça parce
Le
contexte est important tout de même.
Ce n'est pas un exemple isolé. À plusieurs reprises,
Alors, je vais vous indiquer. Je vais vous répondre parce que je suis très à l'aise.
Que le prêt d'œuvre ou le dépôt d'œuvre, d'abord, mettez les œuvres physiquement en danger, chose qu'on
peut
discuter.
Alors, je vais vous donner mon opinion.
Chose qu'on peut discuter. Exemple, le débat engagé avec Béatrix Saul et les conservateurs du musée du château de Versailles.
Je vais vous répondre.
Par ailleurs,
laissez-moi parler.
Par ailleurs, mais je termine quand même parce que je vous soumets au même traitement que celui auquel vous soumettez vos invités, confère le débat avec François de Mazière que vous avez coupé en permanence et que vous n'avez pas laissé s'exprimer. Donc, est-ce que ce n'est pas un cas isolé? C'est une position que vous avez prise très souvent. vous avez défendu le maintien des œuvres dans les collections nationales, principalement à Paris, et cela est un argument ou un prétexte pour prendre des positions sur les politiques de dépôt ou de prêt ou d'exposition vers des musées en région extrêmement tranchées. Est-ce qu'il n'y a pas là une exagération manifeste de votre part ?
Alors, si vous voulez, ma position, qui se lit parfaitement quand on lit tous mes articles, ma position est très claire. Pour le Centre Pompidou-Metz, c'est très différent des autres. Moi, je suis le Centre Pompidou-Metz. J'ai dit beaucoup de bien du Centre Pompidou-Metz, quasiment depuis le début. J'ai même débattu avec Laurent Lebon, etc., et avec quelqu'un qui représentait le Louvre pour le Louvre à Lens. C'est deux problèmes tout à fait différents. Moi, le Centre Pompidou-Metz, tel qu'il a été créé, me paraît une bonne chose. Pourquoi ? Pour plein de raisons. Déjà, parce qu'effectivement, le Centre Pompidou a beaucoup d'œuvres qu'il ne peut pas exposer. Donc, ça permet d'exposer plus d'œuvres.
Vous avez écrit « Le choix d'une ville de province pour montrer des collections d'un musée national créé dès l'origine à Paris est une mauvaise solution. » Je n'ai pas inventé.
Je le dis, oui, non, mais suis d'accord. Alors, si j'ai écrit ça, comme ça, je ne vais pas discuter parce que je le revois. Tel que vous le dites, je ne suis pas d'accord avec ça.
D'accord, très bien.
Donc je reconnais que si je l'ai écrit comme ça, c'est une erreur. Je suis contre.
Développez votre position.
Alors, ma position. Ma position, elle est très simple. Elle est très simple, c'est que c'est le Louvre-Lens surtout qui me pose problème. Le Louvre-Lens. Pourquoi ? Parce que le Louvre a vocation à prêter des œuvres, à envoyer des œuvres en dépôt. Ce qu'il a fait tout le temps, c'est que dans tous les musées, de province actuellement, ou de région, peu importe, sont des dépôts du Louvre, la plupart. Parce que à l'origine, c'était le Louvre, le Musée National, qui a envoyé ça. Donc je suis pour les dépôts d'œuvres, etc. Je suis contre, en revanche, le démantèlement de la collection nationale du Louvre, pour plein de raisons que j'expliquais, et que je pourrais largement expliquer ici, mais on n'a peut-être pas le temps. Pour plein de raisons, parce que d'abord, effectivement, c'est plus visible à Paris, parce que vous le vouliez ou non, Paris est plus accessible aux gens de Pau, aux gens de Rennes, etc., que Lens n'est accessible aux gens de Pau et aux gens de Rennes. C'est une chose, c'est simplement, je n'y peux rien, la géographie de la France est faite comme ça, enfin, surtout la France, c'est une région centralisée. Donc le Louvre est parfaitement l'endroit, je ne veux pas qu'on démantèle la collection du Louvre, et je ne veux pas qu'on envoie des œuvres importantes du Louvre à Lens. Pourquoi ? Parce que dans la région du Nord, ce qu'il faut, c'est aider les musées qui sont sur place. Ce que j'aurais aimé, moi, c'est qu'on crée un vrai musée, qu'on achète. Vous me dites que je suis contre Lens. Si on avait, par exemple, on achète un tableau très cher d'Ingres, le portrait du comte Molé, moi j'aurais aimé qu'on fasse un vrai musée à Lens et qu'on donne une vraie politique d'acquisition pour Lens. Et qu'on crée un vrai musée à Lens. Leur vrai musée, leur vrai Louvre, on l'appelle comme on veut, avec des vraies œuvres importantes. Pas qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul. Quand même, vous m'avez parlé de parisianisme. Excusez-moi, mais alors vous avez mal lu la Tribune de l'Art, parce que la Tribune de l'Art parle souvent pas d'une exposition importante à Paris, mais parle beaucoup d'expositions en région dont personne ne parle, Qui parle des acquisitions des musées de province ? La Tribune de l'Art. Qui parle des expositions en province, des fois de petits maîtres ? La Tribune de l'Art. Qui parle de patrimoine détruit en province ou en région ? La Tribune de l'Art. Je pense, parmi tous les journaux d'histoire de l'art, être le moins parisianiste. Alors là, je pense que c'est vraiment une mauvaise accusation.
D'accord, je vous en donne acte, mais oui, je voudrais, de ce point de vue, illustrer vos propos, que je comprends et que je respecte, par l'évocation d'un musée que vous égratignez souvent et dont j'aimerais vous entendre dire du bien. Le musée d'Orsay et sa politique de prêts et dépôts. Le musée d'Orsay, on le sait, par Guy Cogeval, qui a pris position sur ce sujet, va à rebours du Louvre ou du Centre Pompidou quant à l'implantation d'une antenne en région. Est-ce que vous pouvez nous dire votre avis sur cette politique ?
Alors, oui. Mais d'autant plus que vous dites, vous allez dire pour une fois du bien. Ben, le dernier article que j'ai publié sur Orsay, c'est pour dire l'excellence des acquisitions, c'est absolument pas rien. Lorsqu'il y a eu les travaux et la réouverture, j'ai dit beaucoup de bien de la muséographie du musée d'Orsay, des couleurs choisies, du fait qu'on quittait cette architecture de pierre que j'aimais pas beaucoup de Gaël Lanty. Donc j'ai dit beaucoup de bien d'Orsay et je continue quand je pense du bien.
Et donc on n'est pas la politique de prêt et dépôt.
Alors le problème de la politique de prêt et dépôt, il y a beaucoup de musées de province, de région qui se plaignent d'une certaine, entre guillemets, hein, je mets le terme entre guillemets, brutalité du musée d'Orsay qui a repris certaines œuvres qu'ils auraient bien voulu garder. La Rolla, ils ont bien failli la garder. Le musée de Bordeaux était un petit peu ennuyé qu'on lui prenne la Rolla. Donc, en revanche, je suis pour que le musée d'Orsay a repris beaucoup d'œuvres, par exemple, très bien, qui étaient dans des mairies ou dans des endroits où il n'avait rien à faire. Il les a repris. Donc ça, je suis pour. Je suis en revanche très opposé à la politique de location des œuvres du musée d'Orsay. Mais la politique de dépôt du musée d'Orsay, s'il dépose des œuvres, moi, je suis pour. Mais simplement, il a récupéré des œuvres, il en a déposé certaines autres. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, j'ai pas connaissance d'une politique de dépôt exceptionnelle du musée d'Orsay. Mais ce qu'il fait, il en a fait par exemple à Giverny, le partenariat avec Giverny est excellent, je l'ai déjà écrit. Le partenariat avec le musée Bonnard au Canet est excellent, je l'ai écrit tout ça.
Mais il faut le rappeler de temps à autre, et c'est bien de le dire.
Non, je crois vraiment que, et j'insiste, Par exemple, voilà, le musée d'Orsay, j'ai beaucoup dit bien du musée d'Orsay et de la politique de Guy Cujeval, mais pas de tout. Et le problème, c'est que Guy Cujeval ne retient, et même beaucoup de personnes ne retiennent que ce que je dis de négatif, et que je n'ai pas fini de dire de négatif, parce que j'ai d'autres choses que dont je voudrais parler.
On peut redire ici, comme élément de pause avant d'aborder la dernière partie de notre émission, le caractère remarquable des acquisitions récentes que vous avez soulignées.
Je l'ai dit, oui, tout à fait.
Et la très belle exposition, 7 ans de réflexion.
J'ai été absolument dithyrambique.
Qui est à l'heure actuelle, visible au musée d'Orsay.
J'ai été dithyrambique.
Une politique d'acquisition extrêmement intelligente dans le cadre des moyens dont le musée d'Orsay
reconnaissez que je peux être, même avec le musée d'Orsay, dire du bien.
Je suis heureux de vous l'entendre dire.
Mais vous le lisez surtout.
Abordons la dernière partie de notre émission pour évoquer les questions relatives au patrimoine et à l'architecture. Et j'aimerais vous poser d'emblée une question. Est-ce que vous pouvez nous citer trois exemples, deux ou trois exemples...
Vous êtes bien, parce que des fois, de ressortir quelque chose
est-ce
de rien...
Est-ce que vous pouvez me citer deux ou trois exemples de réalisations architecturales récentes qui vous ont plu?
Ah oui, oui.
Des musées, des musées ou des...
Oui, j'ai l'impression. J'ai pas vu la fondation Louis Vuitton, je suis pas allé sur place. Je l'ai vu extérieurement, je trouve que c'est assez beau comme architecture, honnêtement, hein, franchement. Je pense que... des grands architectes, il y en a. Il y a par exemple deux architectes du Centre Pompidou qui a fait à côté du Centre Pompidou, qui a fait l'IRCAM. C'est très
oui,
très beau.
Renzo Piano,
oui, par exemple, la fondation Pathé, magnifique.
Très bien, absolument magnifique.
Très
bon exemple, effectivement.
J'ai l'impression que le Mucem est plutôt pas mal, même s'il y a eu beaucoup de...
Vous n'êtes pas un ennemi des réalisations architecturales, parce qu'à vous lire, on a l'impression que la préservation du patrimoine ancien, des monuments historiques, l'emporte sur toute possibilité d'inventivité architecturale.
Parce que c'est pas vrai. Regardez ce qui s'est passé. La Fondation Pathé, c'est un très beau monument qui s'inscrit derrière une façade d'un théâtre sculpté par Rodin. Donc on peut pas faire mieux. Également récemment, Rem Koolhaas, je crois, a fait la Fondation Printemps où il a inscrit ça dans un bâtiment. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est l'extraordinaire arrogance de certains architectes contemporains. Je veux parler, par exemple, de Jean Nouvel, qui, à Lyon, a massacré... Là, le terme massacré... Alors, je ne veux pas utiliser massacré, parce que le terme... Oui, si, on peut dire, là, vraiment, très abîmé, en tout cas. Très abîmé, plus que ça, même. Le théâtre 19e siècle, en construisant au-dessus une espèce de dôme. Jean Nouvel n'est pas un mauvais architecte, c'est plutôt un bon architecte parfois, comme pour le monde arabe, l'Institut du monde arabe. Le problème, c'est que quand il s'inscrit dans un monument historique, la plupart du temps, il ne respecte pas ce monument historique. C'est un fait. Le problème, c'est qu'on essaie de s'affirmer contre Paris, contre la structure de Paris. Il y a des endroits où on peut construire à Paris. On veut absolument, on pourra parler de la Samaritaine, on veut absolument construire au cœur de Paris. C'est exceptionnel. Vous me taxez de parisianisme. Qu'est-ce qu'il y a de plus parisien que de vouloir se mettre au centre de Paris alors que peut-être les arrondissements périphériques, voire la banlieue, pourraient bénéficier d'un grand geste architectural?
Non, mais ça n'a rien à voir. Une ville, y compris en son cœur, doit évoluer architecturalement. Vous ne pouvez pas figer. On ne va pas refaire le débat.
La Fondation Pathé, elle n'affiche pas.
Je termine ma phrase. Ne retombez pas dans vos travers monopolistiques du point de vue de la parole. On ne peut pas prétendre qu'une ville ne doit pas évoluer. On ne va pas refaire le débat de la Samaritaine, ni d'autres débats qui ont eu lieu.
Mais on n'aura pas le temps.
Cette position qui consiste à dire que finalement, ce qui a été construit doit à tout prix être protégé.
C'est pas du tout, là, vous simplifiez complètement ma pensée. Vous la simplifiez complètement. D'ailleurs, je viens de vous prouver en parlant de l'IRCAM, en parlant de la Fondation Pathé, que je ne suis pas contre l'architecture contemporaine, du moment qu'elle est respectueuse et qu'elle s'insère dans un cadre. C'est tout, voilà. Et donc, je ne suis pas pour qu'on protège tout, etc. Non, simplement, la Samaritaine est dans un site inscrit, classé, à côté de Louvre, etc. Ce que fait. De toute façon, on a détruit un pâté de maison, ce qui n'avait pas été fait depuis, je pense, à Paris depuis l'époque pompidolienne. On pourrait refaire le débat de la Samaritaine, peu importe. Moi, j'ai écrit tout ce que j'avais à écrire et tout le monde peut m'envoyer. Et vous dites, par exemple, qu'il n'y a pas de débat. Le débat, vous avez vu, le débat de la Samaritaine, quand même, ça ne vous choque pas quand même qu'il y a la tribune là et quelques très rares blocs d'architecture qui écrivent qui est la position et que tous les autres, donc comme par hasard, qui sont très largement arrosés par la publicité
Non, ce qui m'a surpris dans
LVMH prennent une position complètement contraire.
Oui, que vous signalez à chaque fois. Ouais. Très bien. Ce qui m'a le plus surpris dans ce débat, c'est que finalement, le débat s'est focalisé sur la qualité du projet architectural, sur le bien fondé de la décision des tribunaux, alors qu'en réalité, c'est tout simplement le PLU qui dispose d'une mention que le tribunal a parfaitement interprétée de mon point de vue.
Bah, on est d'accord.
Et si on veut, oui, mais ça pose la question de cette mention du PLU. Est-elle ou non excessive ?
Qui a été inclus par Anne Hidalgo, c'est une
certes, mais oui, donc c'est bien que vous lui rendiez hommage.
Non, je ne pas mal, elle s'est aperçue qu'elle a fait une
mais cette mention est-elle ou pas excessive ? Permet-elle à la ville d'évoluer comme elle doit évoluer ? N'oublie-t-elle pas que, l'argument a été battu et rebattu, on cite Haussmann, Haussmann a beaucoup détruit pour reconstruire la ville qu'on veut aujourd'hui protéger.
Autant d'Haussmann, il ne me semble pas qu'il y avait la même protection patrimoniale qu'aujourd'hui.
Certes, mais aujourd'hui, on protège une architecture qui s'est construite sur des destructions. Donc, une ville doit évoluer, doit vivre.
Ah, mais attendez, bien sûr qu'une ville doit évoluer, mais de quelle évolution parlez-vous ? D'une évolution respectueuse comme celle de la Fondation Pathé avec un Renzo Piano, ou de l'évolution qui essaye de faire à Paris ce qu'il y a par exemple à Tokyo, le bâtiment Sanaa, dont ils disent eux-mêmes, dont ils veulent faire en fait, qu'est-ce que veut faire l'LVMH ? Ils veulent faire une grande enseigne qui soit lumineuse la nuit, c'est écrit, hein, qu'on sache partout que l'LVMH est là. Ben, je suis désolé, non, je ne veux pas que Paris évolue comme ça. Je ne dis pas que je ne veux pas que Paris évolue, je dis que je ne veux pas que Paris évolue comme ça, en détruisant des choses importantes du passé pour construire des choses qu'on voit partout ailleurs, à la place.
De grands spécialistes, je pense à Pierre Pinon, ont contesté l'importance de ces immeubles rue de Rivoli. On pourrait refaire le débat.
Pierre Pinon a expliqué qu'il avait été manipulé, il l'a même expliqué sur la Tribune de l'Art. Il a expliqué que le journaliste lui avait fait dire il avait dit simplement que c'est une architecture. Lisez, le plus simple, c'est que les lecteurs aillent voir la réponse de Pierre Pinon à ce que lui a fait dire
Pierre Pinon a écrit que ces immeubles étaient de qualité, mais n'avaient rien d'exceptionnel. Il a écrit et réécrit.
Allez lire ce qu'a dit Pierre Pinon, parce que c'est extraordinaire. Alors là, je crois que vous n'avez pas bien lu ça. Allez lire ce qu'a dit Pierre Pinon.
Je viens de vous le lire.
Mais non, attendez. Je vais vous lire. Non, attendez. Là, franchement, Pierre Pinon a expliqué comment ses propos avaient été tirés de son contexte. C'est ce qu'il disait après. C'est-à-dire qu'il dit que c'est une architecture ordinaire, comme il y en a beaucoup à Paris, mais pas nulle, et pas certainement pas qu'il fallait la détruire.
Bien sûr.
À Paris, combien est-ce qu'il y a de... Alors, en pourcentage, il y a peut-être 10, 15%, 20% d'architecture exceptionnelle et 80% d'architecture ordinaire. Ça veut dire qu'en gros, on peut détruire 80% de Paris. Non, ce qui fait Paris, c'est le plaisir d'immeubles ordinaires importants pour le... Parce que c'est Paris. Paris, c'est 80% d'architecture ordinaire.
Le débat sur l'architecture...
Pierre Pinon a complètement expliqué qu'il avait été manipulé par le...
Moi, je lis ce qu'il a écrit qu'il laisse place. Le débat sur l'architecture dans une ville ne peut pas se prêter à un manichéisme comme celui que vous développez, Didier.
C'est pas manichéen, parce que je vous dis qu'elle peut...
Non,
c'est pas manichéen du tout.
Regardez, l'exemple que vous citez de la construction de piano, qui est effectivement remarquable, ne peut pas se comparer au sujet de la Samaritaine. On est dans des cadres complètement différents. Donc dire, regardez, c'est possible, on le fait pour l'immeuble de Pathé, qui est par ailleurs remarquable.
On ne peut rien comparer à rien dans ce cas-là, parce que rien n'est comparable à la Samaritaine. Rien n'est comparable à la Samaritaine.
L'immeuble visible, la façade a été respectée, c'est un autre cas. Alors j'attends.
Non, simplement, je suggère d'aller voir Samaritaine, comment faire dire à un historien l'inverse de ce qu'il pense, où Pierre Pinon s'explique. Il est complètement d'accord avec moi.
Mais je vous redis.
Non, mais attendez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous savez comment font les publicitaires pour les films ? De temps en temps, ils prennent une critique négative, ils prennent une phrase qu'ils extraient de leur contexte et ils leur font dire que le film est formidable. C'est exactement ce qui s'est passé là.
Je ne crois pas, mais de toute manière, ce n'est pas là-dessus qu'on va conclure. Je voudrais, pour conclure, vous parler de la satisfaction que vous avez à faire le métier que vous faites. Et je voulais vous poser la question, peut-être pour terminer sur une note un peu plus personnelle. Est-ce que cette posture dans laquelle vous êtes, et qui est quand même souvent, le plus souvent, de dénoncer, vous êtes dans votre rôle,
pas le plus
d'alerter,
souvent. Non, non.
De critiquer, est-ce que elle ne vous donne pas l'envie parfois de passer à l'action ? Est-ce que vous n'avez pas envie finalement un jour de vous frotter à la réalité et de voir s'il est possible aussi facilement que parfois vous le dites de passer du côté de la réalité et de ceux qui réalisent, qui prennent des risques, qui doivent se coltiner des contraintes.
Première chose, je le répète une fois de plus, je ferai un jour un décompte, ce sera plus simple. Les articles favorables à la politique publique et les articles défavorables. Vous verrez que on est loin d'être dans les majorités pour les seconds. Pour être quoi d'ailleurs ? Alors vous m'avez dit que vous devriez un jour intégrer un ministère, etc.
Non, je pense. Je vous ai dit, à force de critiquer, c'est très bien, mais passez de l'autre côté et essayez vous-même.
Attendez. Pour essayer moi-même, il faudrait que quelqu'un me nomme. Je doute que quelqu'un au ministère de la Culture. Si j'étais nommé conseiller au ministère de la Culture ou quoi que ce soit, je ne resterai pas, à mon avis, je resterai 15 jours. Mais peu importe, même si ça marchait, etc., je resterai combien de temps? Combien de temps restent les ministres? Combien de temps restent leurs conseillers? 1 an, 2 ans? Ça fait 13 ans ou 14 ans que je fais la Tribune de l'Art. Et je pourrais faire la liste, et j'ai commencé une liste de combats que j'ai menés et que, en partie ou entièrement, pour souvent en partie, hein, parce que je ne suis pas le seul, bien sûr, à faire ça, j'ai gagné. C'est-à-dire des combats qu'on a gagnés. Quand je vais à l'église d'Arc-sur-Til, quand je vais à Arc-sur-Til, petite ville de Bourgogne, où l'église qu'on devait démolir, qui n'a pas été protégée alors qu'elle aurait dû être, je le maintiens, elle devait être inscrite. Elle n'a pas été inscrite par le ministère de la Culture, qui là, je pense, a failli à son devoir. Il aurait dû l'inscrire. Il aurait dû la... Qu'est-ce qui s'est passé? Les habitants se sont bagarrés, ont viré le maire et ont restauré l'église. Et bien quand je suis allé sur place pour visiter l'église, ils l'ont dit, je l'ai filmé, ils ont dit, votre action a été essentielle pour nous. Essentiel
Bravo,
pour nous.
Mais c'est très bien.
Quand un château, mais donc je veux dire, c'est que si je fais la liste, il y a beaucoup, j'ai
donc
beaucoup
vous
contribué.
Êtes dans le concret.
Je pense que j'ai plus sauvé de ce bâtiment que beaucoup de ministres de la Culture.
Bon, écoutez, ça, on fera le décompte un jour, et puis il faudra à ce moment-là voir exactement ce qui a relevé.
C'est très prétentieux ce que je viens de dire, j'en ai conscience. N'empêche que, je veux dire, c'est que je ne pense pas que personne me nommera nulle part, parce que donc je vais pas commencer à mon âge une carrière politique.
Ma question n'était pas quant à votre nomination, c'est tout simplement comment vous vous projetiez à l'horizon de 5 ou 10 ans. Est-ce que vous allez continuer la Tribune
bien
de l'Art
sûr,
comme
oui,
exactement
oui,
vous n'avez pas d'autres projets?
Non, mon projet, c'est de développer la Tribune de l'Art, d'avoir plus de collaborateurs, de mener plus de combats, parce qu'on pourrait être 10 ou 15 à la Tribune de l'Art, on n'arriverait pas à écrire tous les articles qu'on veut. Mais il n'y a pas que les combats, il y a simplement de traiter des acquisitions des musées, ce que personne ne fait, dont beaucoup de musées de province, justement, qui ont malheureusement de plus en plus de mal à acquérir. Eh bien, c'est quelque chose qu'on ne lit nulle part, c'est quelque chose auquel je tiens, et je souhaite qu'on le fasse de plus en plus. J'aimerais être exhaustif là-dessus. J'aimerais être exhaustif sur les expositions. Des expositions, on ne l'a pas dit, mais des expositions qu'on a vues et qu'on critique, parce qu'après qu'on les a vues, des livres qu'on critique après qu'on les a lus, ce qui n'est pas toujours le cas.
Mais je pense que ce serait encore plus formidable si la Tribune de l'Art était encore plus lue qu'elle ne l'est, s'il y avait davantage de participation et de débat sur cette tribune, si vous étiez en position peut-être d'accepter plus facilement la contradiction ou faire de la tribune une véritable,
lieu de
débat.
Notre émission
vous allez me répondre, mais c'est moi qui aurai le dernier mot.
D'accord.
Alors répondez-moi.
Oui, bien sûr. Alors un des projets en tout cas que j'avais et que cette émission, dont je vous remercie, parce que nos éditeurs ont pu penser que c'était assez viril, mais c'était très sympathique parce que moi j'aime beaucoup, on n'est pas d'accord sur tout et même sur pas mal de choses, mais j'aime beaucoup la polémique. Mais pour polémiquer, il faut être deux, et je vous remercie d'avoir servi de débatteur. Et finalement, l'émission ressemble plus à une autre émission que je voudrais faire, en plus de celle-ci, qui serait une véritable émission où, justement, j'inviterais quelqu'un qui est vraiment pas d'accord sur un sujet, par exemple quelqu'un qui serait vraiment à 100%, on parlerait que de la délocalisation des musées, on parlerait que d'inaliénabilité, on parlerait que de la Samaritaine, et ça j'aimerais beaucoup faire une véritable émission de débat où on discuterait comme ça, comme on l'a fait ici, en donnant nos arguments, en respectant l'adversaire, et en donnant les arguments, ça j'aimerais beaucoup le faire, et je pense que je vais le faire, et ça ressemblera beaucoup plus, finalement cette émission ressemblera beaucoup plus à l'émission que je souhaite faire en plus qu'à l'émission que j'ai faite finalement, mais c'est ça qui est très bien.
Très bien, quant à moi je voudrais, cher Didier, terminer par une citation, peut-être que vous allez méditer un petit peu, il s'agit d'une citation du mathématicien Henri Poincaré, qui disait « La vérité est un fantôme qu'il faut poursuivre toujours plus loin, mais pour agir il faut s'arrêter ». Merci Didier pour cette émission.
Merci Guillaume d'avoir participé à cette émission un peu spéciale aujourd'hui.